Avoigny. Nous réécoutons cette semaine la rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean Rochefort, qui vient de nous quitter. Rencontre enregistrée au domicile de Jean Rochefort en 2012. Ce soir, faire du cinéma, c'est pas pensable.
Nous avons dans l'émission précédente, Jean Rochefort parlait de théâtre. On a gardé pour aujourd'hui le cinéma. Il faut rappeler que cette coupure, elle est quand même assez artificielle, elle n'est pas temporelle, puisqu'on a déjà dit que, en même temps que vous tourniez Les Tribulations d'un Chinois en Chine avec Philippe de Broca, vous étiez sur les planches en jouant du Pinter avec Claude Régis à la mise en scène. Je fais ce rappel qui est quand même nécessaire à notre discussion pour expliquer qu'il n'y a pas d'étanchéité dans votre métier d'acteur, que l'acteur de théâtre et l'acteur de cinéma habitent dans le même corps et dans le même esprit, le vôtre, Jean Rochefort. Mais pour parler de cinéma aujourd'hui, j'ai lu votre filmographie et je vois qu'elle commence avec le rôle de l'interne dans Rencontre à Paris, comédie de Georges Lampin, sortie sur les écrans en 1956. Vous aviez donc 25 ans, peu ou prou. Je crois que je n'ai jamais vu ce film, dont la vedette était le regretté Robert Lamoureux, qui vient de nous quitter. Quel souvenir vous avez de cette expérience? Est-ce que c'est vraiment la première expérience cinématographique?
Oui. 1956, oui, effectivement, j'étais très jeune et j'ai eu des mains toujours un peu rustiques. Alors, je jouais un médecin qui arrivait à toute vitesse et il y avait un chef opérateur qui s'appelait Matras. Il était un dieu sur les plateaux. Quand Matras disait « j'en ai pour 3 heures », le plateau partait et le laissait seul avec sa propre œuvre, éclairée. Bon, très bien. Alors, j'avais les mains un peu rurales, comme ça. Il y avait un gros plan de mes mains fouillant dans la mallette médicale pour venir au secours de la jeune première. Et il me dit, avec des mains comme ça, on ne peut pas prétendre faire du cinéma. Et moi, qui suis prêt à prendre tout au sérieux, j'ai vécu 6 mois d'angoisse en regardant mes mains. Voilà mon souvenir.
Drôle de souvenir, mais avant d'arriver à Cartouche, premier rôle comme ça qui va vous faire vraiment découvrir au grand public, il faudrait quand même parler ici de la sortie d'À bout de souffle avec votre ami Jean-Paul Belmondo, qui quand même devient du jour au lendemain une immense vedette. Comment est-ce que vous avez vécu cette très brutale notoriété de celui qui était déjà votre ami ou l'un de vos amis les plus proches?
Il m'est arrivé, dans la même semaine, de voir À bout de souffle et Shadows de Cassavetes. Et pendant une semaine, j'ai marché 10 centimètres au-dessus du bitume, parce que je me suis dit, là est mon avenir. J'étais littéralement bouleversé, enthousiasmé, et j'ai eu très envie du cinéma en ayant vu cela. Mais je suis resté au bord de la plage parce que je ne me suis pas intégré avec ce groupe qui commençait à créer, qui commençait à inventer un nouveau cinéma. Nous en étions à la pleine période où on n'allait plus voir de films français quand la nouvelle vague est arrivée. On le trouvait ennuyeux. On ne le trouvait pas concernant avec notre génération. Et À bout de souffle a été une véritable révolution. Et je me souviens avoir écrit une très longue lettre à mon ami Belmondo, il m'a fait l'honneur de la garder dans son portefeuille pendant une trentaine d'années, parce que ça m'avait réellement bouleversé. Mais voilà, ça a été mon contact avec ça. Alors, bien évidemment, aucune sensation de jalousie vis-à-vis de Belmondo, mais une sorte d'admiration, d'autant que Jean-Paul avouait lui-même que Godard allait le chercher dans son lit, et Belmondo lui disait « Tu m'emmerdes, on va pas avec ton film. C'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a même pas de cantine. » Enfin, je caricature à peine. Et c'est le grand génie de Belmondo, c'est le génie dans la conscience, quoi. Et ça, c'est formidable.
Un ami, évidemment, un ami qui ne vous laisse pas tomber, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que pour Cartouche, dont il est la vedette, il vous fait venir d'une certaine façon. C'est vrai que, voilà. Non pas qu'il vous impose, parce qu'il n'y a pas besoin de vous imposer, mais en tout cas, c'est par lui que ça se passe.
C'est encore plus compliqué que ça. Ah. C'est un remplacement de Marielle. Marielle avait signé, et Marielle, tout à coup, se voit proposer un rôle de séducteur au cinéma. Il ne balance pas. Il fonce avec enthousiasme, mais il avait comme amoureuse les plus belles femmes de l'époque. Les noms m'échappent pour le moment. Mais enfin, c'était un roman célèbre de Morroy. Alors, il nous a traînés, Belmondo et moi, chez tous les tailleurs et chapeliers pour choisir ses chapeaux et ses costumes. Et quand, sur le coup de 18 heures, nous nous affaissions un peu, Belmondo et moi, c'était le 4e tailleur et le 8e chapelier de la journée, Marielle nous regardait sévèrement et disait « Ça ne vous intéresse pas ?» Alors immédiatement, on se mettait tous les deux au garde-à-vous. « Si, si, Jean-Pierre, c'est excellent. Ce par-dessus te va très bien, ainsi que le chapeau. » Voilà notre souvenir. Bref, il est choisi pour ce rôle de séducteur et ayant signé Cartouche, ça le met dans les ennuis possibles avec l'admirable producteur Mouchkine, père de celle que vous connaissez. Et on amène à Mouchkine Rochefort, tenu par le col par ces deux grands imbéciles. Et Mouchkine, avec son accent, lui, se dit « Qui c'est celui-là » Alors, les deux autres disent « C'est un copain, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait au cinéma ?» Alors, il dit « Je rentre de Russie, j'ai fait un film pendant un an. Lui, vieux russe blanc. » Un film en ULSS. Alors, je dis, oui. Qu'est-ce que vous jouiez? Un garagiste. Et moi, c'est un rôle de vicomte que je vous propose. En tout cas, j'ai été engagé et j'ai fait Cartouche tout de suite après ce film de propagande soviétique que j'ai fait pendant plusieurs mois. En URSS, voilà mes débuts au cinématographe.
Est-ce que vous pensez, pendant ces années-là, que votre carrière va se limiter à ces seconds rôles, Jean Rochefort ?
Oui, tout à fait. Je pensais être un acteur de théâtre uniquement. J'étais venu à Paris pour être acteur de théâtre. Déjà, être acteur de théâtre, quitter sa province pour faire du théâtre, était une chose un peu glauque. Mais pour y faire en plus du cinématographe, c'était vraiment l'abysse impossible à la vue des bourgeois de province de cette époque. Il fait du cinéma, alors là, c'était pas pensable. Donc le cinéma, à part peut-être ce choc de l'arrivée de la nouvelle vague, le fameux Cassavetes et Godard, m'était assez indifférent. Ma seule culture cinématographique, quand j'étais enfant, c'était violent d'ailleurs, quand j'allais au cinéma, c'était Gary Cooper et Tarzan. Et le cinéma, c'est venu plus tard. Je crois que le vrai coup de foudre, le vrai tutoiement avec la caméra, le premier, ça a été L'horloger de Saint-Paul et Tavernier, où il y avait là une espèce de seconde nouvelle vague qui arrivait. Et là, j'ai eu un réel plaisir à faire du cinéma. La caméra n'était plus un adversaire. On devenait amis avec elle, on essayait de travailler avec la caméra. Et c'est là que mon amour du cinéma a commencé.
Avant ce... Il y a notamment ces deux films que La Fête commence et L'Horloger de Saint-Paul, faits à tous les deux avec Tavernier, tous les deux avec votre ami Philippe Noiret. Il y a quand même eu, entre-temps, l'émergence d'un Jean Rochefort dans de très grandes comédies populaires. Je pense aux films évidemment d'Yves Robert, Le Grand Blond et Le Retour du Grand Blond notamment, qui ont fait de vous quand même un acteur voilà, très visible du cinéma français, une vedette très populaire. Et justement, d'aller vers Tavernier, et puis on en parle dans un instant, vers Pierre Schoenderfer avec Le Crabe Tambour, voilà, c'est finalement rejouer au cinéma la gravité, le drame que vous pouvez jouer sur les plateaux de théâtre, mais on ne vous connaissait pas encore à ce moment-là dans ces rôles-là au cinéma. Donc dans ces années 70, voilà, vous mettez les deux fers au feu, Jean Rochefort.
Oui, c'est ça. Mais les comédies d'Yves Robert, ces jolies comédies, si bien construites, si bien faites, et beaucoup plus audacieuses avec le temps qu'il n'y paraît. Je me souviens, dans Un éléphant, ça trompe énormément, c'était une comédie très très bien faite, très bien écrite, où le problème de l'homosexualité était présent, sans ironie et sans jugement. C'était tout à fait révolutionnaire pour l'époque. L'homosexuel était un personnage drôlatique qui, en général, arrivait au milieu du film, disait « Bonjour mes grandes, on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Et bon, c'était ça, l'homosexuel au cinéma. Et Claude Brasseur, là, dans Un éléphant, est un homosexuel douloureux qui se confie à ses amis. Et c'est très, très audacieux pour l'époque. Ça m'avait impressionné. Et tout ça au sein d'une comédie drôlatique qui raconte merveilleusement l'époque, c'est-à-dire la genèse du barbecue, n'est-ce pas, de la résidence secondaire, et après 10 ans d'ennui marital, envisager le luxe d'une belle dame qui pourrait être rencontrée 2 fois par semaine dans un palace parisien. Et voilà, c'était toute une époque vraiment précise, du barbecue à la maîtresse.
Mais c'est vrai que ces films-là, ils rencontrent d'emblée un immense succès populaire, et j'imagine aujourd'hui qu'un éléphant qui passe à la télé fait toujours de très gros scores d'audience, mais là, à ce moment-là, vous découvrez une notoriété immense, Jean Rochefort. Comment est-ce que vous la vivez, cette notoriété, le fait de, voilà, dès qu'on sort dans la rue, que les gens vous parlent, j'imagine toujours d'ailleurs avec un grand sourire, parce que vous êtes de notre famille, tout d'un coup.
Oui, tout à fait. Et mon ami Belmondo, mais c'était plus tard qu'il me l'a dit, il était de mon devoir, il est toujours de mon devoir, de ne montrer aucun agacement par rapport à ça, et bien au contraire, d'entrer en contact avec les gens dans la rue, de les écouter, parce que beaucoup me racontent leur vie, et j'ai la sensation à ce moment-là d'avoir eu un métier social qui a son importance et son intérêt. J'apporte du bonheur aux gens et il y a un partage dans la rue. Je me sens exister vraiment depuis cette popularité. Mon ami Belmondo m'avait dit un jour, sans le public, que serions-nous ? C'est tout à fait vrai. Et je suis énervé quand je vois un de mes collègues être un peu expéditif avec une dame qu'il admire, une dame qu'il a vue au cinéma le jour où elle est tombée amoureuse, l'année où elle a eu un enfant. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que nous sommes là. Nous avons un rôle social et il faut le remplir.
Oui, mais ça devient très compliqué après d'aller acheter une baguette de pain. Ça peut prendre 2 heures quand on est Jean Rochefort.
Ici, et à peu près dans le quartier, 3 heures. Mais j'en suis ravi moi-même parce que nous parlons, nous découvrons des amis, des gens, des contacts. C'est très, très agréable. Mes proches me le reprochent souvent, mais ma baguette de pain peut durer 3 heures.
Alors, j'évoquais tout à l'heure un film évidemment important qui est Le Crabe Tambour, important parce qu'il vous vaut un César de meilleur acteur extrêmement mérité, après un César d'ailleurs de meilleur acteur dans un second rôle qui était pour Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Le Crabe Tambour, on rappelle que c'est un film de Pierre Schoenderfer qui est une adaptation d'un roman qui porte le même titre, éponyme dit-on, de ce cinéaste écrivain, ancien militaire lui-même. On se rappelle à l'époque qu'il y a eu déjà la 317e section, la section Anderson, voilà, des films qui racontaient le quotidien des militaires. Là, c'est un film très particulier que moi je revois toujours avec la même émotion. ce commandant de navire qui, au large de Saint-Pierre et Miquelon, comme ça, qui patrouille, qui escorte, hein, qui est là pour surveiller et qui en même temps, c'est un film qui va jouer sur les allers-retours entre passé et présent, une histoire assez complexe à l'écran. Et alors, effectivement, quelques acteurs assez magnifiques, Jacques Dufilot, Claude Rich, votre vieux copain Claude Rich, Jacques Perrin, ce qui est pas mal non plus.
Ah, certes.
Qu'est-ce qui se passe avec ce film-là ? On a quand même l'impression qu'il s'est... Il y a des miracles comme ça qui arrivent parfois, que tout est réuni pour donner un film qui, immédiatement, est un classique.
Il ne faut pas oublier que Jeanne d'Orfer, les grands metteurs en scène qui ont traité du Vietnam, ont pour référence Jeanne d'Orfer. Avec la 317e section, il a créé un cinéma d'une telle authenticité que, très réellement, ils se sont inspirés, ils le disent eux-mêmes, de Jeanne d'Orfer. Et l'aventure de ce rôle, c'est la première fois, la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. C'est un ami qui, je m'empresse de le dire, pour un autre rôle, me donne à lire ce scénario. Je suis électrocuté par ce scénario. Et pour la première fois et la seule fois de ma vie, je prends mon téléphone et je dis, je voudrais jouer le rôle du commandant. Jeanne d'Orfer venait de voir un éléphant, ça trompe énormément. Et il marque une certaine surprise. La surprise durera 4 mois. Et au bout de 4 mois, il me dit, écoutez, voyons-nous et parlons-en. Voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Je tenais à jouer ce rôle. Pour quelle raison ? Une famille dans la marine, la culpabilité. Il a promis ce personnage, il a promis qu'il partirait avec Jacques Perrin pour l'OAS, et il a trahi Jacques Perrin, et à bord de son escorteur d'escadre, avec un bras en moins et un cancer du poumon, ce qui impose immédiatement un César. C'est le minimum nécessaire. Si je n'avais pas eu, j'abandonnais le métier d'acteur. Voilà, ce film m'envoûtait littéralement, d'autant que je venais de perdre un ami, en plus de cet effroyable cancer du poumon, et amoureux comme moi de la mer, je me suis senti chargé d'obligations pour interpréter ce rôle et vivre cette aventure prodigieuse de 2 mois et demi dans l'Atlantique Nord sur un escorteur d'escadre avec 150 marins et 12 mètres de large et 120 mètres de long. Et évidemment, en Atlantique Nord, au mois de février, ça bougeait sérieusement. Et c'est là où l'adrénaline d'un rôle nous a posé des problèmes, puisque les 3 acteurs qui étaient sur cet escorteur d'escadre n'ont jamais eu le mal de mer. Alors qu'on a vu des militaires de profession, parce qu'on prenait souvent les lames de travers pour que ça saute encore plus, malades comme des chiens, et nous n'avons jamais rien eu. C'est très bizarre, parce qu'on était dans nos rôles. Moi, j'y crois beaucoup. Comme on tournait tout à coup un événement qui pouvait se produire, on était toujours en uniforme. Et ces 150 hommes d'équipage, pendant 2 mois, se sont mis m'ont salué dans les coursives, pensant que j'étais le vrai commandant. Je disais, je suis le clown, mais ils m'avaient choisi. Alors j'ai laissé tomber, je leur répondais au bout d'un moment. Mais c'était très curieux ça, et quand j'ai vu les côtes de France, j'ai demandé qu'on me réveillât pour que je puisse voir enfin les côtes de France, quand on est rentré, et je les ai vus dans la brume du petit matin, un temps très très gris, et j'ai eu mal de mer. C'est très curieux, n'est-ce pas, hein? Et voilà. Alors c'était un film presque personnel, voilà. Et je me suis entendu très bizarrement avec Schoenderfer. Nous sommes pratiquement rien dit pendant 2 mois. Et nous avons pour l'un et pour l'autre une grande estime. Il n'était pas vraiment militaire, il était reporter militaire, il a été fait prisonnier par le Viet Cong et il s'est mis à sauter dans une mare et avec un bout de bambou, il a respiré. Et la troupe de fantômes dont il faisait partie, puisque ça a été atroce, ce qui est arrivé à ces soldats de profession, qui évidemment défendaient une cause plus que douteuse, quand même souffert atrocement, et qu'ils étaient débarqués de nuit en France pour qu'on ignorât bien leur sort et leur existence. C'était quand même l'armée française, non ? Dans la nuit, comme ça, on débarquait des demi-cadavres qui rentraient prisonniers ou grands blessés de cette guerre. Enfin, elles sont toutes absurdes, mais celle-là aussi l'était particulièrement. Et voilà, quoi, voilà, ça a été comme un besoin de jouer ce rôle. Choisir, donner sa parole, être sur la mer, respecter profondément celui à qui on a donné sa parole, et courir après lui sur une mer déchaînée pour pouvoir lui parler et lui demander pardon et ne pas le faire.
Et en préparant ces entretiens, je me disais, Jean Rochefort, que c'est l'itinérance sciée à vos compositions dramatiques, parce qu'il y a cette itinérance maritime avec le crabe tambour, une itinérance ferroviaire avec un étrange voyage d'Alain Cavalier, une itinérance en voiture avec Tandem, signé Patrice Lecomte. Ce sont là parmi vos plus beaux rôles dramatiques. Il y a quelque chose quand même dans le voyage.
Oui, c'est bizarre.
Qui oui, vous va bien.
Bizarre. Ah oui, ça me plaît, oui. Un étrange voyage. J'ai reçu le DVD hier, 30 ans après. C'est un de mes films préférés.
Film d'Alain Cavalier, avec sa fille, Camille de Casabianca.
Oui,
L'histoire, je le rappelle rapidement, hein, il attend sa mère qui doit arriver au train. Elle est bien montée dans le train, mais elle n'est pas là à l'arrivée. Et donc, ce père et cette fille vont faire le chemin, le long de la voie de chemin de fer, pour voir si ils retrouvent cette mère. Hein. C'est le point de départ du film.
Très beau film. Pudique. Cavalier, quoi. Que j'estime...
Avec un nom pareil, remarquez. Vous pouvez clémer celui-là.
Oui, oui, non, c'est un remarquable créateur, je trouve extrêmement important pour le cinéma français, et c'est un de mes films préférés. Et en effet, ce sont des films d'errance, et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis un sédentaire dans la vie, que je suis à l'aise. Dans des films d'errance, mais c'est vrai que ce sont des films auxquels dont je suis fier.
Et un film très sédentaire, moi, que j'aime particulièrement, c'est vrai qu'avec Tandem, on a beaucoup dit que Patrice Lecomte avait vraiment signé son chef-d'œuvre. Moi, j'aime beaucoup Le mari de la coiffeuse, qui se passe essentiellement dans le salon de coiffure, comme son titre l'indique, avec cette folle histoire d'amour qui me fait pleurer à chaque fois que
je vois le
film, Jean Rochefort.
Oui, oui, oui.
Il y avait un état de grâce, là encore, sur ce...
C'est ça, film. C'est ça. Mais j'ai, avec l'accord de Lecomte, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce personnage dansait de temps en temps sur des musiques orientales.
Oh oui.
Et pour moi, quand je dansais ces choses-là, c'était pour... donner un peu d'inquiétude à cette femme de ma vie en lui disant « je peux partir ». J'ai envie de temps en temps d'aller vers un orientalisme que ton salon de coiffure ne me procure pas. Pour la déstabiliser, pas une tactique, mais quelque chose qui pouvait déséquilibrer ce couple, cet amour... tellement sublime qu'il ne peut être que fragile. Voilà. Donc il y avait comme une errance dans le salon de coiffure grâce à une petite radio qui diffusait des danses orientales que cet homme sédentaire dansait. Oui, hein, c'est vrai.
Et une dernière rencontre importante, qui s'est passée pour l'instant au cinéma, celle que vous avez faite avec Édouard Baird. Il y a un film qui s'appelle « À quoi bon ?», que j'ai vu plusieurs fois aussi avec toujours un immense bonheur. Là, il y a une rencontre qui est une forme d'évidence entre vous deux, malgré les quelques années qui vous séparent. On a parlé de la rencontre avec Belmondo ou Marielle et quelques autres 40 ou 50 ans plus tôt. La rencontre avec Édouard Baird, elle est aussi évidente pour vous ?
Oui. Oui, oui, oui. Ça a été une grande chance dans le début de ma maturité de rencontrer ce gamin qui correspondait... Enfin, il avait des audaces que je n'avais pas osé avoir. Et il y a entre nous une complicité, une amitié fort grande. Et j'y tiens beaucoup à cette amitié. Et le à quoi bon en question est vraiment la synthèse d'un monde complètement imbécile dont on rêve tous et qui nous rendrait heureux.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2012 d'Arnaud Laporte avec Jean Rochefort qui vient de nous quitter. À voix nue, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne Sécheret, Thomas Beau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.